Je vous le dis en vérité, tous ceux d'entre vous qui croient, comprennent et cherchent quotidiennement à mettre mes paroles en pratique seront exemptés des tribulations que connaissent les hommes. Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créé et votre vraie raison d'être. Vous êtes nés pour être les fils et les héritiers du Père. Vous êtes nés pour aimer tout ce que le Père est en soi et tout ce qu'il peut vous donner. Mais vous tournez le dos à toute la gloire du royaume et essayez de trouver du plaisir dans les choses terrestres. En agissant ainsi, vous ne découvrirez jamais le royaume de Dieu ni n'entrerez dans le royaume des cieux. Comment entrerons-nous dans le royaume? Je vous l'ai déjà dit. Vous entrez dans le royaume des cieux quand vous vous repentez de tout ce que vous êtes dans votre cœur et dans votre esprit. Quand vous remettez votre part d'ombre au Père, demandez pardon et priez pour avoir la force de vous purifier de vos mauvaises pensées, paroles et actions, vous finissez par vous en débarrasser. Alors vous pouvez être sûr que vous êtes sur le point de trouver le royaume des cieux. Quand vous aurez accompli cela, vos attitudes envers autrui changeront car le Père accomplira son œuvre d'amour en vous. Vous serez libéré des chaînes et cordes des mauvais désirs et des actes qui vous liaient autrefois et vous rendaient captifs du monde. Plus que cela, vous découvrirez que le Père répond vraiment à chacun de vos besoins. Une femme s'exclama : J'ai un besoin en ce moment même, maître, j'ai faim. Les gens rirent, mais plusieurs voix se joignirent à la sienne en disant : Nous sommes avec toi depuis de nombreuses heures. Tu nous as fait marcher très longtemps avant de consentir à nous enseigner. Nous t'avons montré que nous sommes de bons moutons. Ne nous aideras-tu pas à satisfaire notre faim ? Je me rendis compte qu'ils disaient la vérité et ressentis une grande compassion pour eux. Ils ne m'avaient pas suivi juste pour être guéris, mais aussi parce qu'ils avaient très envie de connaître la vérité qui m'avait été donnée par le Père. Je leur avais dit que le Père satisferait à tous leurs besoins. J'avais là une occasion de leur montrer le pouvoir de la foi et la puissance qu'est Dieu. Je prouverai que rien n'est impossible à ceux qui croient vraiment, comme moi j'avais cru et perçu. J'appelai mes disciples et leur dis de chercher s'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui avait de la nourriture. Ils trouvèrent un jeune garçon qui avait des pains et des poissons et me les apportèrent. Je m'éloignai quelque peu de la foule et contemplai tranquillement les pains et les poissons, sachant qu'il n'était que l'expression du pouvoir de l'Esprit divin, la substance de toute matière rendue visible. Je savais que le pouvoir de l'Esprit divin était illimité et puissamment actif dans ma conscience. Je savais que la nature du Père était la satisfaction des besoins. Comme je bénissais la nourriture, je sentis la puissance s'écouler entièrement à travers mon esprit, mon corps et mes mains. Je sus que la faim des gens serait satisfaite. Je ne savais pas comment cela se ferait, je savais simplement que cela se ferait. Je pris alors les paniers de nourriture et dis aux disciples de la distribuer, me sentant absolument certain que chacun aurait autant de nourriture que nécessaire. Pendant que la nourriture était partagée et passée à travers la foule, elle se multiplia jusqu'à ce que toute la foule ait été nourrie et soit repue. Il resta plusieurs paniers de reste. J'avais ainsi démontré que la matière, tout ce qui est visible dans l'univers, est de la conscience spirituelle et mentale rendue visible dans la vibration des poussières, que la science nomme des particules. Les changements de vibration des poussières, donc de la matière, s'opèrent suite à une visualisation dynamique et active, puissamment dirigée, disciplinée, focalisée, de l'énergie mentale et consciente. Quand, dans une conscience d'amour, on agit purement pour accomplir le bien d'autrui, les seules limites à l'œuvre d'amour du Père dans le monde sont les limites que l'esprit de l'homme impose à cette œuvre. De telles modifications de la matière ne peuvent avoir lieu que lorsque la conscience de l'homme est en parfaite harmonie avec la conscience universelle Père et unie à elle. Bien que la stupéfaction régnât parmi les gens et mes disciples, à voir les gens nourris de cette façon, personne ne comprit comment une telle chose avait été accomplie. Ils ne pouvaient que conclure que c'était le miracle le plus extraordinaire qu'ils aient jamais vu. Cela confirma aussi leur croyance que j'étais le Fils de Dieu. Un autre jour, j'étais assis sous un arbre à l'extérieur de Bethesda, entouré de gens qui m'avaient apporté leurs malades à guérir. Comme toujours, ils s'émerveillèrent du retour à la vie et à la santé de ces gens et se demandaient comment de tels miracles pouvaient se produire. À nouveau, j'essayais de leur faire comprendre la puissance de la foi. Les évangiles déclarent que j'ai dit que si un homme avait une foi de la taille d'une graine de sénévé, il serait capable de déplacer des montagnes. Cette déclaration est une interprétation erronée de ce que j'ai vraiment dit. Elle montre combien mes disciples et les évangélistes avaient peu compris mes enseignements au temps où nous vivions sur terre. Si une personne devait avoir une foi de la taille d'une graine de sénévé, que signifie ceci? Comment peut-on mesurer la foi d'une telle façon? La foi est la foi. C'est une puissance de conviction totale, de l'esprit, qui possède l'esprit, et elle ne peut pas se limiter en taille. La foi qui provient du besoin de croire en une chose, parce que cela serve au but d'une façon ou d'une autre, peut être puissante et forte, mais elle ne pourra jamais s'évaluer en termes de taille. La croyance est encore plus forte. Elle trouve sa source dans l'ouï-dire et la logique. L'on a entendu ou lu quelque chose et l'on est convaincu que ce qui a été lu ou entendu est vrai. On développe alors une croyance profonde en ce qui a été entendu ou lu. On croit que c'est vrai. On le croit d'une manière totale, défiant toute contradiction. Je disais constamment aux gens, « Croyez que vous recevrez et vous recevrez. » Cependant, je savais à cette époque qu'il serait presque impossible aux gens d'avoir jamais une foi suffisante pour accomplir des miracles, puisque de quelque façon que je leur explique la vérité, ils n'auraient jamais la certitude intense qu'il m'avait été donné de recevoir dans le désert. Mais maintenant que je rapporte, en partie, l'histoire de mon séjour sur Terre, en Palestine, c'est dans l'intention que vous, lecteurs, commenciez à percevoir et comprendre la connaissance que j'ai reçue pendant mon illumination. J'ai l'intention de vous donner la connaissance. Croire par oui-dire, c'est croire quelque chose qu'on vous a dit mais dont vous ne pouvez pas vraiment prouver la véracité. Le savoir résulte d'avoir lu ou entendu quelque chose et d'avoir constaté que ce qui a été lu ou entendu se conforme logiquement et concrètement à toutes les connaissances que vous avez accumulées. C'est parce que vous êtes en mesure de comprendre et croire de manière logique et réaliste la nouvelle information qu'elle devient connaissance. Vous êtes convaincu que ce que vous savez maintenant est la vérité. Jusqu'à présent, certains d'entre vous avaient foi en Jésus-Christ, mais vous ressembliez à des enfants précoces. Votre foi était partiellement aveugle et obéissante, bien que mêlée à beaucoup de doutes. Ainsi, quels que fussent vos besoins, vous comptiez sur Jésus pour accomplir le travail, alors qu'en fait, la plupart des choses que vous demandiez et croyiez provenir directement de Jésus étaient votre foi même en Jésus, rendue visible sous la forme de ce que vous aviez demandé. Bien que cette foi enfantine soit très importante pour votre bien-être, vous qui avancez sur le chemin spirituel de la perfection, il vous faut maintenant accéder à un niveau plus profond de vraie connaissance de la relation entre l'esprit et la matière. Sans cette base, l'homme continuera à patauger dans des mythes religieux et restera enlisé dans la misère de la condition humaine. Quand j'étais sur Terre, j'ai dit la vérité aux gens, mais elle était continuellement mal interprétée. Ce que j'ai vraiment dit au sujet de la foi, c'est ceci. Voyez ce grand, cet immense arbre. Il vient de la graine la plus minuscule que l'on puisse imaginer. Voyez son tronc énorme, ses branches et son feuillage. Cette gigantesque croissance est sortie tout entière d'une petite graine. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? D'où viennent le bois de l'arbre et le feuillage qui l'ornent? N'est-ce pas un miracle aussi grand que les miracles que j'exécute pour vous jour après jour? La croissance de cet arbre n'est-elle pas autant le travail du Père que la guérison des gens malades? Je vous le demande, qu'est-ce qu'une graine? Pouvez-vous me le dire? Non, vous ne le pouvez pas. Mais je vous le dirai. C'est une minuscule entité de connaissance consciente. C'est la connaissance consciente de ce qu'il deviendra. C'est un fragment de conscience tiré de la conscience créatrice divine. C'est un fragment du pouvoir de l'esprit tiré du pouvoir de l'esprit père qui, une fois planté dans la terre et arrosé de pluie, s'habillera de matière visible dont il possède au plus profond de lui la connaissance. Cette connaissance est vraie, ferme, forte, inébranlable. Cette connaissance de soi, incarnée dans la graine, est une conviction de sa conscience. Toutes les formes de vie surgissent de cette conscience de soi orientée vers son but, cette conviction de conscience. Cette conviction de conscience est ce qui différencie le sol inanimé et les rochers de tout ce qui vit et croit à la surface de la terre. Là où il n'y a pas de conviction de conscience ou de connaissance de son identité, il n'y a pas de croissance. La conscience qui gît dans le sol et les rochers reste de la conscience en sommeil. Par conséquent, si vous pouviez croire en ce que vous demandez avec autant de conviction qu'une graine de moutarde croit en sa propre identité, vous seriez capable de faire tout ce que vous voulez. Si vous pouviez garder en votre esprit une graine, le plan perfectionné de vos buts les plus intimes, et savoir sans aucun doute qu'elle peut croître et arriver à réalisation parfaite, vous verriez cette merveilleuse graine prendre une vie propre qui se manifesterait bientôt dans votre vie. Et vous pourriez sûrement déplacer des montagnes dans votre vie, ces montagnes qui sont en travers de votre chemin et vous empêchent de réaliser tout ce que vous voulez. Les montagnes que vous avez créées vous-même dans vos moments d'imprudence et de mauvaises pensées. Si seulement vous compreniez la création et l'existence, vous pourriez vivre une vie de liberté totale, d'accomplissement illimité et de joie transcendante. Cherchez à comprendre, et petit à petit, la compréhension vous viendra. Frappez à la porte de l'univers donnant accès à Dieu ou conscience Père universelle. La porte s'ouvrira et vous accéderez au secret du monde. Croyez tout simplement et vous recevrez. Je le rappelais aussi à tout moment, seuls les esprits et les cœurs purs accompliront ces choses puissantes. Il se peut que les méchants prennent le dessus pendant un certain temps, comme l'ont fait des rois, des armées conquérantes et d'autres, amassant l'iniquité dans leurs esprits. Il leur est permis d'accomplir leur œuvre pendant un certain temps, puisqu'un bien relatif provient aussi du mal. Mais ils échouent toujours au bout du compte et leurs noms sont honnis par le reste de l'humanité. Donc, à tous ceux d'entre vous qui voudraient réussir, je dis, examinez vos motivations. Les désirs nés uniquement d'une envie égoïste de richesse ou de confort conduisent finalement à la déception, la maladie et la mort. Je vous dis, à vous qui me lisez, ne niez pas la vérité dont je parle tant que vous n'avez pas, vous aussi, foulé le chemin de la renonciation de soi, celui que j'ai foulé sur terre, et atteint, vous aussi, l'union avec le Père, la connaissance et la compréhension incommensurables, irréfutables. Une fois cela accompli, vous n'aurez plus envie de nier la vérité dont je vous parle. Vous vous sentirez au contraire poussé à me rejoindre dans l'enseignement de vos semblables. Jusque-là, gardez le silence et sans parler de ce que vous ne connaissez pas encore. Combien de fois, à travers le monde, les gens se réjouissent-ils de mes enseignements, qu'ils trouvent d'une grande moralité et régissant parfaitement le comportement quotidien à tenir, pour ajouter aussitôt qu'il serait temps de reléguer les histoires de miracles au placard, puisque de telles controverses aux lois naturelles de l'univers sont impossibles. Cette façon de penser fait barrière au progrès futur du développement spirituel et scientifique dont est capable l'esprit humain. Je ne reviens pas sur Terre pour inaugurer une nouvelle religion, ou un code moral plus élevé que celui donné par Moïse dans les 10 commandements. Je veux apporter une nouvelle perception de Dieu, c'est-à-dire du Créateur et de la compréhension de l'existence elle-même. De cette connaissance découlera un nouveau mode de vie. Adoptez la bonne attitude envers ma mission sur Terre. Au cours de ce 3e millénaire, reconnaissez que les miracles que j'ai accomplis dépassent les capacités actuelles de l'être humain moyen. De tels miracles sont des exemples de ce qui pourra être réalisé à l'avenir, lorsque l'esprit des gens sera entièrement imprégné de la vraie connaissance de l'existence. Alors, par la foi, la méditation et la prière, il s'accordera avec et s'imprégnera de la vie universelle ou conscience d'amour. Est-ce bien vrai que j'ai marché sur les eaux quand mes disciples sont montés à bord d'un bateau pour traverser le lac? Si vous avez lu l'histoire biblique de cet événement, vous savez que les disciples étaient partis sans moi. Je cherchais une occasion de m'éloigner de tout contact humain, de me retirer dans les collines et d'entrer encore une fois en méditation profonde pour permettre à ma conscience de s'unir à la dimension universelle de la conscience de Dieu. Pendant que j'étais dans cet état spirituel qui transcendait la conscience humaine, toute sensation physique disparut. Je fus soulevé en extase dans le courant universel de vie. Je sus que la vie universelle était tout. La vie était la réalité de mon état d'être, et tout le reste n'était que manifestation changeante et provisoire de la vie universelle rendue visible. Je sus, sentis, que j'étais la vie elle-même. Au fur et à mesure que je glissais au-delà de la conscience terrestre et entrais dans la conscience de vie universelle, les lois gouvernant mon être physique furent transcendées et ne s'appliquèrent plus à la chair et au sang de mon corps humain. J'eus très envie de me déplacer dans ce nouvel état transcendant et me trouver en train de flotter hors de ma grotte. Je voyais mes disciples sur le lac et sus qu'ils étaient en détresse. Sans effort, je descendis la colline et m'approchai du rivage, flottant dans les airs, puis, au fur et à mesure que je reprenais contact avec mes soucis humains habituels, en l'occurrence mes disciples, je vis que mes pieds effleuraient l'eau. Cependant, j'étais toujours dans cet état où je réalisais entièrement que j'étais, moi-même, la vie individualisée et donc que mon corps était infusé de la puissance de vie qui allégeait et transformait encore la structure atomique de mon corps physique. Comprenez bien qu'entendre et penser dans l'état de conscience humain et ascensionner dans la réalisation transcendante de la vie universelle, quand la conscience personnelle est retirée du corps et fusionne complètement dans la conscience universelle Père, appartiennent à deux dimensions complètement différentes. La conscience humaine peut recevoir l'inspiration de la conscience universelle Père, mais l'inspiration reçue se mélange avec la condition humaine. Elle est donc souvent mal interprétée, selon les connaissances qui contrôlent déjà le cerveau et les processus mentaux eux-mêmes. Malheureusement, l'inspiration que vous recevez est contaminée et déformée par vos croyances actuelles, que vous entretenez avec tant de vigueur. Au lieu de cela, l'état de réalisation et de perception transcendante sort, émerge de la condition physique. Le cerveau ne contrôle plus. Il n'a plus aucune influence sur l'état de perception supérieure qui est la vérité elle-même. Le cerveau n'est plus contrôlé ou affecté par les croyances humaines. Il se trouve dans un état de ce qui existe réellement, au lieu d'être dans la dimension humaine de ce que l'on croit être l'existence. Il est dans l'état transcendant de la conscience où les miracles ne sont en réalité que l'expression normale de la loi universelle.